Le meilleur des ondes, 88.3 Radio Campus.
On renonce à son petit confort, on abandonne toutes ses foutues possessions terrestres, on s'en va habiter une ruine dans le quartier des déchets toxiques. Et quand on rentre chez soi, c'est pour entendre ça.
Radio Campus, 88.3.
Radio Campus. La science infuse.
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2023 à Orléans, nous accueillons Julie Bourseguin, maître de conférence. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à Orléans, rattaché à un laboratoire au CNRS, c'est ça ?
Tout à fait.
Et un laboratoire où vous étudiez les composés luminescents de lanthanide, spectroscopie et bio-imagerie optique.
C'est ça.
Expliquez-nous.
Alors en fait, c'est un laboratoire qui a pour but de développer des agents d'imagerie qui vont être utilisés notamment en médecine, ça c'est le but ultime, et ces agents d'imagerie, donc c'est un laboratoire qui du coup combine de l'expertise à la fois en chimie pour créer ces agents d'imagerie, mais aussi en biologie pour leur trouver des applications diverses et variées pour imager des cancers, mais aussi on peut imaginer le cerveau et des maladies neurodégénératives.
Maître de conférence, ça veut dire que vous donnez aussi des cours ou pas ?
Exactement, oui. Je partage mon temps entre le laboratoire, la recherche et puis une grosse partie de préparation de cours et de cours et TD avec les étudiants de l'université.
Avant d'arriver là, vous avez évidemment fait un cursus universitaire, on va y passer un peu de temps. Vous étiez à l'université François Rabelais, votre licence de biologie c'était là ?
Oui, tout à fait. Donc il y a quelques années, j'ai commencé la biologie à l'université de Tours avec une mention particulière, non pas en neurosciences, mais en génétique.
Mais oui, je vois
voilà.
Ça.
Donc les neurosciences sont venues un petit peu plus tard, pendant ma carrière de recherche. Après Tours, où j'ai passé 3 ans, je suis montée sur Paris pour faire un master spécialisé en génétique avec une mention plus particulière en cancérologie. Et puis j'ai continué avec ma thèse, mais en fait, j'explorais un petit peu mes cours avant de venir, que j'avais suivi, et je me suis aperçue qu'en fait, les neurosciences avaient toujours été un petit peu dans le fond, comme ça, de mon esprit, parce que je me suis rendu compte, en fait, en revenant un petit peu en arrière, que j'avais suivi beaucoup de modules optionnels de neurosciences.
Et avant votre bac, est-ce que vous avez toujours eu envie de faire ça, ou la génétique, ou la biologie ?
Alors moi, à l'origine, j'avais ce rêve d'être médecin généticienne et d'aider des enfants et des adultes atteints de maladies génétiques. Le concours de médecine étant ce qu'il est, j'ai plutôt fait de la génétique, mais appliquée à la recherche.
Comme vous dites, alors après Tours, vous êtes montée à Paris, les fameuses universités de Diderot, Paris Diderot, et puis Paris-Saclay ensuite. Et vous le savez peut-être, on est très masochiste en région, dans les territoires. On dit toujours que généralement, nos enseignements et à Orléans et à Tours ne sont pas de niveau. Alors, il y a eu un vrai changement pour vous ou pas ?
Il n'y a pas eu un énorme changement, je vais être tout à fait honnête. Je pense que Tours m'a très très bien préparée au master que j'ai intégré sur Paris. C'est assez rigolo hein, parce qu'en fait sur la promo d'une cinquantaine d'étudiants, en fait ils avaient recruté 2 étudiants de Tours, donc je pense vraiment qu'on avait quand même des dossiers qui étaient relativement bons, donc je pense qu'il ne faut pas dénigrer les universités de province, bien au contraire, je pense qu'on fait des formations de qualité et qui justement nous ouvrent les portes de belles formations derrière, que ce soit en master ou en thèse.
Et votre doctorat, c'était en biologie, vous nous disiez aussi en sciences de la santé, et ça c'était en 2016, je crois,
c'est ça.
Et juste après, vous faites quoi ? Vous partez à l'étranger, il y a un post-doc, hein, c'est ce qu'on appelle un post-doc, et vous êtes où alors ?
Alors, je pars à l'université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui est une superbe université. Si vous allez, si vous avez l'occasion, c'est univers Harry Potter. Comme
c'est vrai.
Voilà, c'est vraiment génial. Et voilà quoi, c'est une université formidable qui brasse des personnes venant de tous horizons, de tous les pays. J'y reste 4 ans. Et c'est là, en fait, que je retombe amoureuse des neurosciences, puisqu'en fait, j'étudie le développement d'une maladie génétique chez l'enfant qui provoque une perte de cellules neuronales au niveau du cervelet, qui est une petite structure derrière, là, au niveau du cerveau, et qui conduit ces enfants à être en chaise roulante à partir de l'âge de 8-10 ans. Et voilà, en fait, je reprends le virus des neurosciences là-dessus.
Et vous faites quoi? Vous supervisez cette étude-là, précisément?
En fait, je débute l'étude. En fait, j'arrive dans un laboratoire qui vient d'être créé avec une jeune chercheuse qui devient donc ma chef. Mmh. Et on développe ce projet qui est assez nouveau parce que c'est vrai que ces jeunes patients dans tous les symptômes qu'ils ont, finalement, la neurodégénérescence, c'est terrible à dire, mais c'est presque pas le plus dramatique. Et en fait, très peu de gens s'étaient intéressés jusque-là à ce qui se passait, en fait. Quels étaient les mécanismes qui faisaient que ces enfants, très très vite, hein, vers l'âge de 1 an, ils commencent à perdre des cellules au niveau du cerveau. Et voilà, c'était une étude toute nouvelle. Et voilà, on s'est lancé à corps perdu dedans pendant 4 ans.
Vous l'avez suivi cette étude depuis? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau?
En fait, on a 2 étudiantes en thèse qui continuent à travailler dessus et on suit ça. Voilà, de très près. C'est des étudiantes en thèse qui sont absolument formidables, qui font un travail de folie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis, on espère, nous, on a fait une publication il y a maintenant 1 an avec ce travail-là. Voilà, on en espère un petit peu plus. Et surtout, notre travail, nos projets ont titillé, je pense, la curiosité d'autres chercheurs ailleurs dans le monde. Et de ce que j'ai compris, il y a quand même des collaborations qui sont en train de s'établir avec des chercheurs, notamment en Israël et aux États-Unis, pour avoir des modèles et récupérer aussi des échantillons de cerveau pour essayer d'étudier un petit peu plus ce qui se passe. Voilà.
À Cambridge, vous êtes en laboratoire, mais vous êtes en cours également.
Beaucoup moins.
D'accord.
J'ai une toute petite charge d'enseignement à Cambridge. En fait, l'enseignement se fait de manière un petit peu plus différente au Royaume-Uni. Les étudiants sont intégrés très tôt dans les laboratoires. On les voit arriver à peu près dès leur 2e année, où ils viennent passer 3 mois dans le laboratoire. Alors, c'est assez tôt, hein. Mais c'est en même temps génial parce qu'en fait, on supervise des étudiants. On leur fait découvrir des choses. On attise un peu leur curiosité sur les projets. Et puis, par contre, la charge d'enseignement, elle est un peu moins importante. On fait ce qu'on appelle des supervisions, en fait, avec des groupes qui font entre au minimum 3 étudiants jusqu'à 12 étudiants pour lesquels, en fait, on récapitule leurs cours, on essaye de les faire travailler sur des points en particulier. Et puis, où on fait l'équivalent de TD, en fait, ici, presque.
Quel souvenir gardez-vous de cette partie d'étudiante là-bas? Vous disiez que c'était une superbe ambiance Cambridge et qu'il y avait des étudiants et étudiantes du monde entier. Quel souvenir gardez-vous, bon ou mauvais, d'ailleurs?
C'est un bon souvenir, en général, un très, très bon souvenir d'une ville agréable à vivre, d'une vie étudiante assez singulière, puisque, effectivement, c'est des petits groupes d'étudiants, des promos qui se connaissent. Nous, en licence de biochimie, je crois qu'on devait recevoir à peu près une 50aine d'étudiants, ce qui est assez particulier comparé à ce qu'on a ici en termes d'effectifs. Et un très, très bon souvenir. Après, une ambiance un petit peu plus élitiste.
D'accord.
Faut être très honnête. C'est des universités qui, contrairement à nos universités françaises, coûtent très cher. Alors, il y a la possibilité pour tous les étudiants, a priori, de faire des prêts et des choses comme ça, mais voilà, qui reste quand même moins accessible que nos universités françaises.
Ouais. Je reviens d'un mot sur ce que vous avez fait à Cambridge. Vous avez travaillé sur des maladies dites de la réparation de l'ADN. Okay. Mais dites-moi, vous nous disiez aussi à l'instant que c'était tout nouveau, mais l'ADN, on y travaille depuis quelques années.
Ouais,
quand même.
Oui, fait, les maladies de la réparation de l'ADN, en fait, on s'y intéresse depuis toujours. Hein. J'imagine que vous avez déjà entendu parler peut-être des enfants de la Lune, qui sont ces enfants qui ne peuvent pas sortir, s'exposer au soleil sous peine de développer des cancers. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que des mutations dans les gènes de la réparation de l'ADN, il y en a des dizaines et des dizaines, parce que des gènes de la réparation, il y en a énormément. Et en fait, nous, ce qu'on avait remarqué, c'était que souvent, les mutations de ces gènes, elles étaient impliquées, en fait, associées souvent avec des syndromes neurodégénératifs. Mais c'est vrai que nous, ce qui avait intéressé les chercheurs jusque-là, c'était plutôt cette partie développement des cancers et très peu la neuroscience qui était associée. Et c'est comme ça qu'en fait on en est arrivé. C'est comme ça que je suis passée de la génétique pure, d'étudier ces gènes de la réparation, à un peu plus de neurosciences.
Là, cette période-là, c'était entre 2017 et 2021,
ouais, c'est ça.
Mais avant, vous étiez également à l'étranger, à la grande université de Harvard. Mais là, vous étiez stagiaire.
Hein. Et là, j'étais stagiaire. Ouais, j'ai eu l'occasion de partir à Boston et travailler à Harvard pendant 6 mois. Alors ça, c'était dans le cadre de mon master. Et effectivement, alors ça, là, on était sur un projet beaucoup plus cancer, avec l'idée d'étudier l'inflammation dans le cancer du sein et son influence sur la gravité de la maladie. Donc là, on sortait complètement du cerveau. Et voilà, c'était une expérience aussi vraiment géniale. Encore une fois, un univers universitaire très, très particulier. Alors là,
ça vous changeait vraiment de la France ?
Oui, hein ? Oui, oui.
Là, vous étiez à Diderot ou vous étiez à Saclay déjà ?
Alors là, j'étais à Diderot encore. J'avais déjà cette notion de campus à Diderot, parce que le campus, c'est marrant, c'est une enclave au milieu de Paris, en fait, hein, qui est située près de la bibliothèque François Mitterrand. Mais en fait, on arrivait à Boston et il y avait deux campus. Il y a celui de la fac de médecine. Mais en fait, celui de la fac de médecine, il est entouré de laboratoires de recherche. Entouré d'hôpitaux, en fait, c'est un quartier où il n'y a que des hôpitaux et des laboratoires de recherche. Et en fait, on est dans un microcosme de chercheurs et d'étudiants. Et puis après, vous avez le campus universitaire principal qui est situé à Cambridge, mais Massachusetts, du coup, qui est de l'autre côté de la rivière. Donc vous avez Boston et puis Cambridge de l'autre côté de la rivière. Et voilà, c'est le campus américain, quoi. Mmh. C'est vraiment, vous avez les étudiants. Enfin, moi, j'y étais à partir du printemps, les étudiants assis dans l'herbe en train de réviser un vrai film, quoi.
À l'américaine.
À l'américaine.
Mais à Harvard, vous travaillez sur autre chose complètement.
Voilà. Hein.
Les tumeurs mammaires, par exemple.
C'est ça.
Alors comment vous passez de...
Comment est-ce que je passe de l'un à l'autre ? C'est vrai que c'est assez... moi j'ai un parcours assez atypique. Moi je suis une grande curieuse en fait. Donc je vais sur les projets qui me plaisent. Donc en fait quand je suis partie en stage, il y avait vraiment cet aspect de me dire je veux étudier les gènes qui sont dérégulés dans le cancer. C'est comme ça que je suis arrivée sur le campus d'Harvard avec cette idée de dire a priori il y a des gènes impliqués dans l'inflammation, dans la réponse immunitaire qu'on l'air d'être dérégulés et j'aimerais comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, quand j'ai commencé ma thèse, donc l'année suivante, en fait, il y avait toujours en fait cette idée d'étudier des gènes dérégulés dans le cancer. Donc là, je passe sur un autre cancer qui est le cancer de la peau. Et ces fameux gènes de la réparation de l'ADN, parce que là, pour le coup, c'est ceux-là qui étaient dérégulés dans ces cancers-là. Et voilà. Du coup, on refait le parcours un petit peu comme ça.
Vous en gardez quelque chose de ces études-là, qui sont parallèles à ce que vous faites, enfin parallèles,
oui.
Qui sont un peu différents ou parallèles, mais ce que vous faites maintenant ?
Je pense que l'université, et moi ça je le répète beaucoup aux étudiants, elle est là pour vraiment attiser notre curiosité, en fait, pour nous donner des compétences pour qu'on puisse aller chercher des informations, aller chercher, apprendre à être curieux, apprendre à organiser notre pensée, apprendre à répondre à des questions. Et en fait, je pense que ma formation, et je pense que les enseignants que j'ai rencontrés pendant cette formation-là, c'est vraiment ça qu'ils ont créé chez moi. une vraie curiosité, ce qui fait que effectivement, moi, des fois, ça m'a été un petit peu reproché d'être peut-être passé du coq à l'âne en termes de recherche, mais en fait, moi, je vois le fil conducteur. Ça a vraiment été garder cette curiosité, cette envie de répondre à des questions qui me titillaient l'esprit. Et je pense que ça, c'est vraiment la formation qu'on a qui crée ça.
Après vos 5 années de post-doc à Cambridge, vous revenez à Orléans. Et là, c'est Orléans. Hein. Vous arrivez au CNRS ici, au Centre de Biophysique et Moléculaire, au CNRS. Comment ça se passe, voilà.
Y a cette envie de rentrer parce que, alors pas parce que le projet me plaît plus, mais simplement parce que on vient de finir le Covid, la famille est loin. Moi, j'ai une petite fille qui naît pendant le Covid, donc on a envie de rentrer à la maison. Et en fait, la maison, moi, c'est pas très loin d'ici, puisque c'est Chartres. Voilà. Et donc, du coup, on rentre et je postule dans les labos de ratoir de neuro. Et il s'avère qu'il y a ce poste d'ATER, donc c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche, qui est ouvert à Orléans, dans le laboratoire de Séverine Morisset-Lopez, qui est du coup au CBM, au CNRS, et qui travaille en neuro sur, pareil, des maladies neurodégénératives et des récepteurs particuliers à la surface des cellules neurales.
Voilà. Et ça dure un an ?
Et ouais, ça dure pas longtemps, oui. Parce qu'en fait, au concours s'ouvre un poste de maître de conférence, donc le poste sur lequel je suis.
C'est une progression, donc.
C'est une progression, mais ce poste n'est pas ouvert dans le laboratoire de Séverine, il est ouvert dans le laboratoire de Stéphane Petou. Mmh. Mais il couvre la partie enseignement que je fais en tant qu'ATER. Donc, je fonce, en fait. Hein. Je pose ma candidature. Et puis, le concours, et ça passe.
Je répète donc l'intitulé de ce que vous faites sans accrocher les mots comme tout à l'heure au début. Composé luminescent de lanthanide, spectroscopie et bioimagerie optique. Et vous avez dit, hein, vous travaillez beaucoup sur l'imagerie, quelque chose de très, très important dans les neurosciences. Dites-nous un mot.
Donc nous avons de très très bons chimistes dans le laboratoire qui créent des composés à base de lanthanide qui sont en fait des métaux luminescents. Et en fait, l'idée, c'est de leur trouver des applications. Donc, l'un des projets, par exemple, qu'on me propose, c'est de pouvoir marquer des récepteurs ou des canaux à la surface des neurones pour essayer d'en créer une espèce de carte d'identité et de voir si cette carte d'identité, elle est perturbée quand on a le développement d'une maladie neurodégénérative.
Ça veut dire qu'on a chacun ou chacune une spécificité neuronale ou pas,
d'ADN, non ? On aurait, entre guillemets, ce qu'on appellerait la normalité.
Oui.
Voilà. Et puis, on espère, lorsqu'il y a des stades très précoces dans le développement de certaines maladies, et nous, on pense notamment à la maladie de Parkinson, qui finalement, les premiers signes apparaissent assez tardivement les signes cliniques, on va dire, apparaissent tardivement, alors que les signes au niveau moléculaire ont l'air là, d'être là depuis un petit peu plus longtemps. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est être capable d'imager ces modifications au niveau cellulaire très, très tôt dans la maladie et de pouvoir dire, là, on est sur sans doute un Parkinson précoce. Et voilà ce qu'on peut mettre en place pour essayer de ralentir l'évolution de la maladie.
Et vous en êtes où précisément, là, dans le...
Eh bien, on n'en est pas très loin pour le moment.
Ah, très bien.
Non, ça, c'est vraiment des choses qu'on essaye de faire financer. Alors, on dépose des demandes de financement. Bon, il y a des choses déjà qui ont avancé. Hein. On sait déjà quelles molécules on va utiliser, quelle va être notre cible. Et puis là, ce qui reste à tester, c'est être sûr que les molécules vont bien au bon endroit. Et puis, savoir comment est-ce que ça pourrait être utilisé, soit en recherche, soit en clinique plus tard.
Parallèlement, vous travaillez aussi sur le cancer du sein ?
Oui, tout à fait. Alors là, moi, c'est le projet qui est le plus abouti. En collaboration avec l'ICOA qui est sur le campus, on développe, des molécules chimiques luminescentes dans le but de détecter un cancer du sein particulier qui s'appelle les cancers du sein HER2, qui sont en fait des cancers qui posent un gros problème puisqu'ils récidivent très souvent. Et au moment de la récidive, ils deviennent plus agressifs. Donc l'idée, ce serait vraiment d'assister la chirurgie, puisqu'en fait, la chirurgie, c'est l'étape, la première étape en fait, du traitement de ces femmes, c'est de retirer un maximum de la tumeur avant de les traiter par chimiothérapie. Et donc l'idée pour nous, c'est de développer en fait, un composé qui émet de la lumière, que les chirurgiens pourraient utiliser pour retirer un maximum de la tumeur. Et du coup, éviter le risque de récidive derrière.
Julie Bourseguin, pour terminer cet entretien, je voulais revenir à ce que vous faites en enseignement. C'est ce que vous nous avez dit, vous donnez également des cours. À quel niveau ?
Là, pour le moment, en licence principalement, de la première année jusqu'à la troisième année. Et voilà, principalement en génétique, un petit peu de biologie moléculaire.
Comment on se sent tous les matins quand on doit avoir des cours? On pense à ses propres années de cours, de se dire il faut que je leur voilà, faut qu'ils comprennent tout de suite, il faut que voilà, comment ça se passe dans votre tête?
Alors moi je suis toujours très excitée d'aller en cours pour voir les étudiants, leurs réactions face aux informations qu'on essaye de leur délivrer. Alors moi j'ai pas j'ai pas cette envie que l'étudiant comprenne tout de suite. Je pense qu'il y a une partie de répétition, de gymnastique à faire pour comprendre les différents concepts. Mais ouais, j'y vais toujours avec beaucoup d'entrain. Et ce que j'aime, moi, c'est cette étincelle de compréhension des fois qu'on lit, on lit dans le regard des étudiants. Des fois, on sent que, surtout à 8h le matin, on est un peu tous pareils, on sent que la salle a un peu de mal à démarrer. Et puis, en fait, tout d'un coup, il y a une espèce d'émulation, des personnes qui participent de plus en plus. Et voilà, c'est vraiment chouette. Moi, c'est ce que je cherche.
Vous arrive-t-il de parler à vos étudiantes et étudiants de votre parcours? Est-ce qu'ils vous posent la question? Diderot, Saclay, Cambridge quand même, Harvard. Ils vous posent des questions là-dessus?
Ils sont curieux. Ouais, il y a une grosse curiosité. Moi, j'y réponds sans problème. Alors, je ne vais pas tout de suite dans les détails. Moi, je vais dans les détails quand on me les demande. Je ne suis pas du genre à m'exposer. Enfin, surtout que... Enfin, voilà, je pense que c'est aussi... Il y a beaucoup de hasard dans les endroits où j'ai été pour étudier. Enfin, voilà, il y a des rencontres et des hasards. Et donc, du coup, ouais, non, moi, j'aime bien partager ça et j'aime bien leur dire que... Ben justement, ils entendent tellement qu'ils ont fait une université de province, Orléans, Tours, etc. Et en fait, leur dire, mais voilà, vous décidez où est-ce que vous avez envie d'aller, en fait. Si vous avez envie, eh ben vous y allez, et puis ça ira, quoi. Voilà.
Cette interview est réalisée dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Radio Campus y participe depuis quelques années maintenant, avec des émissions spéciales et dont des interviews comme la vôtre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette Semaine des Cerveaux?
Et c'est un peu le même vécu que d'aller devant des étudiants. C'est-à-dire que là, on ne va pas devant les étudiants, on va devant le grand public, on va devant notre mamie, notre maman, notre papa. Et on essaye de transmettre les dernières recherches que nous, on a fait. Et puis des fois, les dernières recherches dont on a entendu parler, que ce soit en congrès ou des choses comme ça, on essaye d'inviter des gens pour venir faire des conférences. Et voilà, moi, c'est vrai que je le vis comme ça, d'essayer de transmettre ce qui est notre passion au quotidien au plus grand nombre. Et je me dis que voilà, si ça peut susciter des vocations, des passions. Enfin, moi, je sais que mes parents, qui ne sont pas du tout scientifiques, c'est assez rigolo. Ça reste leur vision de parents. Ils pensent que je connais tous les neuroscientifiques et tous les neurologues du monde. Mais ils ont cette curiosité. Ils tendent l'oreille maintenant quand ils entendent parler de recherche sur tel et tel sujet. Et je trouve ça chouette.
Merci à vous d'avoir voulu bien venir parler de votre cursus. Julie Bourseguin dans les studios de Radio Campus. À très bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
spinning, cannot stop it, never stop. It seems like everything is certainly coming to a head. I'm gonna turn it around, keeping my feet on the ground.
Campus. La science infuse.
Dans le cadre de la semaine du cerveau 2023 à Orléans, nous avons le plaisir d'avoir dans notre studio Flora Reverchon-Assadi. Bonjour Flora.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheurs. On peut dire ça.
Hein, on peut le dire, oui.
On peut le dire à l'Université d'Orléans, mais vous êtes également au laboratoire d'immunologie et neurogénétique expérimentale et moléculaire, c'est sur le campus CNRS.
Tout à fait.
Dans une équipe neurotoxicité et développement. Qu'est-ce que vous y faites ?
Qu'est-ce qu'on y fait dans l'équipe du professeur Stéphane Morteau ? Les grandes thématiques de l'équipe, c'est s'intéresser aux effets d'un certain nombre de composés auxquels on est exposé depuis notre plus jeune âge, même pendant la grossesse de notre maman. Et donc, à des faibles doses, on est exposé à ces composés et quels sont finalement les effets à plus long terme sur le fonctionnement du cerveau et éventuellement même quels sont les effets vis-à-vis de notre vulnérabilité vis-à-vis de certaines pathologies cérébrales.
Donc les désordres neurologiques, c'est ça.
Exactement, tout à fait.
Vous travaillez sur des maladies très connues ou pas ?
Très connues, type Alzheimer ou Parkinson ?
Oui.
Non. On aborde la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques.
La sclérose en plaques.
Voilà, tout à fait, qui est un peu plus connue. Et on a un nouveau projet sur des douleurs neuropathiques chez des patients sous chimiothérapie traités pour des cancers.
Et votre laboratoire travaille évidemment avec l'hôpital ?
Tout à fait, oui.
Vous y travaillez, vous y allez, vous avez un labo à l'hôpital ou pas ?
On n'a pas de labo à l'hôpital. Par contre, en effet, on travaille depuis plusieurs années maintenant en collaboration avec le service de neurologie et plus particulièrement le docteur Ozou. En effet, on interagit, on accorde un petit peu nos discours, nos compétences, puisqu'on n'est pas à la même échelle. Ils sont à l'échelle humaine, bien entendu, et nous, on est à l'échelle plus petite, voire cellulaire. Mais c'est très intéressant de pouvoir interagir avec eux et on monte des projets communs. commun. Et on a voilà, en parallèle nos projets expérimentaux au laboratoire et des inclusions de patients en études cliniques.
Et vous êtes dans votre recherche, vous êtes loin de trouver des...
Oui, en fait, on trouve tous les jours.
Tous les jours, oui.
Voilà, on trouve tous les jours. Par contre, ce qui va parler au plus grand public, à savoir des traitements.
Absolument.
Là, voilà, on est loin, bien entendu, mais chaque jour est une nouvelle pierre apportée aux connaissances de ces maladies.
Parlons maintenant de votre cursus universitaire. Vous avez fait toutes vos études pratiquement en supérieur à Orléans.
Tout à fait, oui.
Mais vous avez une licence à Dijon, je crois.
Oui, j'ai fait ma première année de licence à Dijon. Je suis originaire de Dijon. Et ensuite, à partir de la licence 2, je suis arrivée à Orléans, tout à fait.
Et Orléans, c'était un choix académique ?
Non, ce n'était pas un choix académique. C'était vrai, enfin, globalement, c'était aussi général que l'université de Dijon. C'était un choix personnel voilà, pour suivre mon mari.
D'accord. Et est-ce que vous aviez toujours pensé faire ça ? Vous avez des études en biologie, plus particulièrement, avant le bac ?
Alors, j'ai toujours aimé la biologie, la SVT, hein, quand on est au lycée. Ça, pour le coup, ça m'a vraiment toujours plu. Après, dans le projet de continuer en thèse et d'être ensuite enseignant-chercheur, ça vient avec les études, avec les stages aussi qui ont été proposés dès la licence 3. Hein. J'ai fait un stage volontaire dans ma dernière année de licence qui a été vraiment révélateur. Donc, c'est vraiment là, ces petites expériences et finalement le contact avec mes enseignants-chercheurs de l'époque, mais que je côtoie encore en tant que collègue, donc ça c'est absolument extra, qui m'ont vraiment donné envie et qui m'ont fait connaître le métier, hein, parce qu'en fait c'est un métier qu'on ne connaît pas quand on est étudiant, donc ça a été ça vraiment la révélation pour moi.
Votre formation à Orléans, si vous aviez à la qualifier, vous diriez que c'est quoi ? C'est une formation d'excellence
Alors,
qu'est-ce que ça vous apporte en tout cas ?
C'est une formation qui est assez générale. Donc, ça peut être un petit peu reproché hein, par les étudiants, bien entendu, puisque voilà, on traite de tout à toute échelle. Donc, on va être sur le fonctionnement des différents organes jusqu'à l'échelle de l'ARN. Donc, c'est vrai que c'est très, très large pour les étudiants et ils peuvent parfois, je l'entends, se perdre un petit peu. Mais par contre, c'est une vraie force. On s'en rend compte avec le temps, puisqu'on utilise justement cette pluridisciplinarité. Après, dans nos projets de recherche, voilà, on va collaborer avec des biochimistes, avec des gens qui font de la structure de protéines. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est cette ouverture d'esprit que l'on a avec la formation d'Orléans.
De la deuxième année de licence donc jusqu'au doctorat,
oui,
à Orléans.
Tout à fait.
Pas de post-doc. Hein, parce que
si, post-doc, mais à Orléans aussi.
À Orléans aussi, d'accord.
Tout à fait.
Et là, c'était déjà au CNRS.
C'était au CBM, oui, le laboratoire d'à côté.
D'accord. Et vous y faisiez quoi ?
Donc j'y ai travaillé sur notamment la sclérose en plaques. Donc c'est là où on a développé un projet avec l'hôpital. C'est à ce moment-là que ce projet s'est développé. Et on étudie un récepteur plus particulièrement qui est le récepteur de la sérotonine. On entend beaucoup parler de cette molécule du bonheur. Oui. Et voilà, on s'y est intéressé dans le cadre de cette maladie.
Et c'est le CBM, comme l'INEM, c'est où vous êtes maintenant, sont dits laboratoires d'excellence. Vous confirmez ?
Alors, je confirme, ce n'est pas très objectif, voilà. Mais disons que ce sont des laboratoires qui ont leur signature, vraiment leur domaine d'expertise, donc pour l'INEM plus particulièrement en immunologie et en neurologie. Et c'est vrai qu'en plus avec le développement depuis ces dernières années de projets transversaux, hein, puisqu'on traite de la neuro-immunologie maintenant, hein, donc finalement quelles sont les interactions entre le système immunitaire et le cerveau, moelle épinière. Et puis ce sont des labos bien entendu qui ont eu un bon rayonnement national et international, notamment avec des collaborations au Brésil hein, qui sont des collaborations historiques pour l'INEM, et donc ça nous permet d'accueillir des étudiants étrangers tous les ans pendant plusieurs mois, donc c'est une vraie richesse et on a justement des échanges. Moi j'avais eu l'occasion de partir pendant ma thèse au Brésil, c'était très court, mais voilà, ça fait partie des expériences qui sont très formatrices.
Ouais, parce que évidemment parallèlement à vos travaux de recherche, vous accueillez des étudiants. On va en parler maintenant. Vous avez encadré plein d'étudiants.
J'ai eu la chance de pouvoir encadrer beaucoup d'étudiants, tout à fait. De la licence au BTS, au DUT, au master. Ça, c'est des vraies forces hein, parce que on se remet en question énormément quand on forme quelqu'un, bien entendu. Et puis, il faut lui apporter l'aspect pratique, technique, mais aussi les connaissances théoriques pour pouvoir intégrer correctement le projet, s'y sentir bien. Donc, c'est des très belles expériences. les étudiants nous apportent beaucoup, on leur apporte beaucoup. Il y a une vraie réciprocité. C'est une très bonne expérience.
Et ça ne vous retarde pas dans vos travaux de recherche, par exemple?
Alors,
c'est une continuité?
Assez une continuité, oui, tout à fait. Hein. Alors, ça permet des fois les étudiants en stage avec nous peuvent parfois développer un projet qu'on n'aurait pas le temps en temps normal de développer. Et sinon, on les met en effet sur notre thématique. Donc, ils avancent avec nous dans le projet. Ils suivent les réunions. Enfin, voilà, ils sont vraiment impliqués dans la dynamique de l'équipe.
Vous donnez également des cours, c'est quoi, en licence 1, licence 2?
Tout à fait, et Master 1.
Et Master 1 aussi?
Tout
d'accord.
À fait.
Et alors, l'étudiante que vous étiez, il y a une petite partie de l'étudiant que vous étiez qui vient en tête quand vous êtes devant des étudiants?
Oui,
ou pas,
bien sûr. Et...
De quelle façon?
Souvent je leur en parle, hein, parce qu'on discute avec les étudiants, c'est des moments d'échange. Donc c'est vrai que, étant donné mon jeune âge, disons que je fais encore un petit peu jeune, donc les étudiants me demandent souvent l'âge que j'ai et par où je suis passée. Donc j'ai toujours l'occasion de pouvoir en discuter. Et puis ce sont des salles que j'ai côtoyées en tant qu'étudiante. Et comme je vous disais, mes collègues actuels sont mes anciens enseignants. Donc oui, j'ai toujours une part de moi qui se souvient de ça. Et c'est justement bien parce qu'il y a des choses peut-être que j'aurais souhaité avoir quand j'étais étudiante. Donc à moi de faire en sorte maintenant que les étudiants éventuellement puissent l'avoir. Et puis tout ce qui m'a convenu de le maintenir, quoi.
Ouais. Il y a aussi... dans votre carrière, plein de prix et de titres scientifiques, on va y venir, mais aussi les publications, c'est très important quand on est scientifique. Vous avez fait énormément de publications pour votre jeune âge, dites-moi.
Alors, énormément, je ne sais pas.
C'est quand même.
Mais disons que les projets ont souvent abouti à au moins une publication, donc ça c'est vraiment bien, puisque ça permet d'apporter de la crédibilité et de la pertinence à nos résultats, ça permet de le communiquer à la communauté scientifique. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même très important que les résultats ne restent pas dans un placard. Donc c'est vrai que ça, c'est très bien, mais bon, on souhaiterait toujours forcément plus. Après, ce sont des publications pendant des CDD, hein, donc de toute façon, c'est des projets qu'on ne peut pas poursuivre. En tout cas, pas moi personnellement, mais je sais qu'au CBM, les projets se poursuivent et c'est super. Donc quand on voit en effet que même après notre départ, les projets continuent, c'est extrêmement gratifiant.
Et quand on publie des articles scientifiques, on peut l'être en premier auteur ou deuxième auteur. Expliquez-nous ce que c'est.
Tout à fait. Alors, la place du premier, deuxième, c'est les places finalement des personnes qui vont réaliser le projet, à la fois techniquement et puis aussi dans la gestion, l'organisation du projet. Et puis, il y a une place également importante, c'est les deux dernières places, hein, puisque là, ce sont souvent les directeurs, les personnes qui ont permis le financement aussi des projets, hein, donc qui ont répondu à des appels d'offres pour pouvoir soutenir financièrement le projet.
Ouais. Des prix. Vous avez eu énormément de prix. On s'était d'ailleurs rencontrés lors de ma thèse en 180 secondes. C'était en
2016, tout à fait.
Absolument. Vous avez eu le premier prix.
Oui, à Orléans.
Est-ce que, franchement, ça vous a apporter quelque chose dans votre cursus universitaire, d'avoir ce prix-là?
Bien sûr, parce que n'importe quel prix, c'est une reconnaissance. Donc voilà, c'est aussi une prise de confiance en soi. Je pense que c'était un exercice qui était très différent de ce qu'on avait l'habitude de pratiquer. Et ça, pour l'ensemble des candidats avec qui on a partagé d'ailleurs une très, très bonne formation. Donc c'était une approche différente, un très bon exercice, et ça m'a apporté parce qu'en fait j'ai rencontré plein de gens en dehors du laboratoire dans lequel j'étais, et donc en thèse on a besoin de ça, on a besoin de lever la tête du guidon, on a du mal à le faire, mais je pense que c'est vraiment vraiment important de le faire parce que tout ne se joue pas sur la thèse, hein. C'est aussi important de voir que la thèse c'est qu'un début, et après on va sortir du laboratoire de thèse, on va devoir voler un peu de ses propres ailes, et donc plus on rencontre des gens et en plus d'univers différents avec des cultures aussi différentes, ça peut que nous apporter humainement, et on se rend compte avec le long terme scientifiquement aussi.
Et comme je faisais partie du jury, je peux dire aux auditeurs que votre prestation a été formidable. Vous avez eu le prix du jury d'ailleurs, hein, du jury et du public,
oui,
je veux dire.
Oui, tout à fait.
Voilà, ça c'était en 2016, mais vous avez aussi eu ce titre d'espoir de la recherche. Ça, je suppose que c'est aussi très important.
Oui, pour moi, oui, forcément. Oui. Oui.
Mais ça consiste en quoi? C'est une fondation, hein, c'est la Fondation de la Recherche Médicale.
Tout à fait, la FRM, oui, qui a financé le projet. Là, il était question, en effet, on a déposé un projet à la FRM. Donc, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir porter ce projet, donc proposer un projet à cette fondation, donc un projet de recherche autour de la sclérose en plaques, notamment. Et donc, parmi tous les projets qui ont été réceptionnés, voilà, le mien fait partie de ceux qui a été sélectionné comme espoir de la recherche, parce que la thématique vraiment était très intéressante. Elle l'est encore, puisque le CBM continue justement ce projet, donc c'est super. Et puis vraiment, voilà, ça permettait de coordonner à la fois les compétences que j'avais acquises durant mon doctorat, et c'est également celle de l'équipe du CBM qui m'accueillait. Donc, c'était un très beau projet. Donc, c'était encore une fois une belle reconnaissance du travail.
Ouais. Cette interview est réalisée dans le cadre de la Semaine du cerveau à Orléans, en France et à Orléans, 2023. Vous avez quoi comme relation avec cet événement, précisément, vous ?
Alors du coup, je fais partie de l'équipe, on est nombreux, hein, oui, sur différents laboratoires, donc l'équipe qui organise cet événement. Donc, il est très important, hein, au-delà... On va parler déjà d'un premier niveau, c'est nous en tant que scientifiques, hein, c'est-à-dire on se rejoint, hein, quand bien même nos laboratoires ont une certaine proximité sur le campus. Souvent, on ne se croise pas pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc là, vraiment, c'est l'occasion de se retrouver, de pouvoir parler des recherches que l'on fait aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'axes qui pourraient vraiment se développer. Hein, on a des intérêts communs, hein, mais pour ça, il faut se rencontrer, il faut se parler. Donc déjà, d'un point de vue, voilà, communauté scientifique, on se retrouve et voilà, c'est très enrichissant. On invite également des personnes extérieures. Donc de nouveau, on parle du réseau, hein, qui est assez important. Il faut faire connaître les neurosciences à Orléans. Et puis d'un point de vue, bien entendu, accès au grand public, c'est majeur, hein, puisque le cerveau reste quand même un organe qui, on va dire, qui intéresse, qui intrigue. On se pose énormément de questions. On a l'impression que c'est absolument incompréhensible. Et donc, voilà, on rend, on va dire, ce domaine-là, les neurosciences, plus accessibles, puisque pour que chacun puisse un peu mieux comprendre comment ça fonctionne.
Ouais, mais ce travail de rencontre, il se fait quand même au niveau de la neuroscience. À Orléans, on en a parlé déjà dans cette radio avec d'autres intervenants, de Axone,
oui, tout
Axone,
à fait.
Axone, c'est quoi, oui. Vous en faites partie, vous ?
Oui, tout à fait, j'en fais partie. Ouais. On était là dès le début, du coup, quand ça a été monté entre les différents laboratoires sur le campus à Orléans. Donc oui, c'est un axe de recherche autour des neurosciences à Orléans. Donc ça regroupe un certain nombre de laboratoires et aussi également l'hôpital. Donc on a l'INEM, on a le LBLGC, on a le CBM, l'hôpital, et puis on a bien entendu des collaborateurs autour, notamment avec nos collègues chimistes. Donc voilà, c'est vraiment un groupe de travail. On a à la fois une partie qui est basée sur la communication des neurosciences, donc là, l'organisation de la Semaine du cerveau ou même de la Fête de la science en font partie. Et puis on a également donc toute une partie recherche, montage de projets communs, recherche de financement, donc le fait d'associer plusieurs laboratoires, différentes compétences, expertises, voilà, nous permet de penser en tout cas et de réfléchir les projets de recherche futurs un peu différemment.
Avec des événements organisés, hein, régulièrement dans le cadre de la Semaine du cerveau, mais oui, en dehors de ça, est-ce que vous organisez des choses ?
Oui, tout à fait.
De la science, évidemment.
Oui. Mais, oui. L'année dernière, on a eu l'occasion d'organiser au MOB, au Muséum d'Orléans, une grosse conférence. Donc, toute la journée, on était en colloque scientifique entre nous, voilà, sur les différents partenaires des laboratoires et également ceux de Tours. Donc on a présenté nos travaux scientifiques et le soir il y avait une grosse conférence grand public sur l'effet de la musique sur le cerveau et donc vous étiez présent ça c'était super il y a eu un très beau succès, un très beau rassemblement autour de cet événement. Donc voilà, je ne veux pas vendre la mèche, je ne veux pas parler au nom de mes collègues, mais on s'était dit pourquoi pas tous les deux ans avoir cette dynamique de proposer quelque chose autour du cerveau au grand public.
Alors, vous souhaite le meilleur pour la suite, Flora.
Oui, merci beaucoup.
Assadi, merci d'être venue dans les studios de Radio Campus dans le cadre de la Semaine du cerveau 2023 à Orléans.
Merci, à bientôt.
Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow.
And come over and start up a conversation with just me. And trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox. And then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Radio Campus. La science infuse.
Dans le cadre de la semaine du cerveau 2023 sur Radio Campus Orléans, nous recevons Emiliane Taillebois. Bonjour Emiliane.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université d'Orléans, au laboratoire LBLGC, qui est l'acronyme pour Laboratoire de biologie des ligneux et grandes cultures. Présentez-nous ce laboratoire.
Alors c'est un laboratoire qui va regrouper différentes équipes de recherche. Donc actuellement on a 4 équipes de recherche, dont 3 sur le site d'Orléans, avec une équipe auquel j'appartiens, donc qui s'intéresse à l'entomologie et biologie intégrée. Donc on va s'intéresser à l'interaction des insectes avec les plantes notamment, et leur réaction à différents insecticides, biopesticides qu'on pourra tester. Et vous avez d'autres équipes dans le laboratoire qui s'intéressent plus donc à la signalisation cellulaire ou à la biologie végétale, ouais. Alors notamment la réponse par exemple des peupliers à la sécheresse ou choses comme ça. Donc on va d'ailleurs changer de nom au 1er janvier 2024.
Pour vous appeler comment ?
P2E pour physiologie, écologie et environnement.
Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, c'est mieux.
Ça sera
mieux pour moi, en tout cas au micro. Allez, on va se débarrasser tout de suite de la question idiote. Ça a un cerveau, donc un insecte ?
Tout à fait. C'est vrai que c'est une question qui étonne, surtout quand on va présenter la neurobiologie de l'insecte quand on intervient par exemple auprès des enfants. C'est la première question qu'ils nous posent aussi sur la présence du cerveau. Donc oui, le cerveau des insectes, c'est un sujet intéressant à étudier.
Mais qui ne fonctionne pas forcément comme le cerveau humain, si ?
Alors il y a des similitudes, on a des récepteurs neuronaux qui sont les mêmes, d'où notamment les problématiques liées à l'utilisation des insecticides qui vont cibler le cerveau des insectes, mais qui peuvent aussi avoir des effets secondaires sur des espèces non cibles et dont l'homme.
D'accord. Et vous, dans votre laboratoire, vous travaillez sur quel insecte précisément ?
Alors, on a différents modèles au laboratoire. On a un modèle puceron, dont on a un élevage. On travaille aussi sur les blattes et au niveau des arthropodes, sur les tiques. Et en tant qu'espèce non cible de référence, on travaille aussi sur l'abeille.
Et pourquoi faire en finalité ces travaux sur l'insecte ?
Alors, l'objectif de nos travaux, c'est de mieux comprendre le mode d'action des pesticides qui vont agir sur le cerveau des insectes pour justement permettre une évaluation plus juste des risques liés à leur utilisation et des mécanismes qui conduisent aussi à la résistance chez les insectes cibles.
Et parce qu'il y a un vrai risque pour certains arbres, certains ligneux par rapport aux insectes, la présence d'insectes sur la cible haute, hein, vous dites ça, c'est ça ?
Alors on essaie de comprendre nous comment ça fonctionne par exemple sur des modèles d'insectes qui sont ciblés par les neurotoxiques, par les insecticides, donc ça va être comment ça va fonctionner dans le cerveau d'une blatte ou d'un puceron pour essayer d'avoir quelque chose qui est plus actif. Et en même temps, de comprendre comment ça va fonctionner sur des espèces qui ne sont pas ciblées de base, comme les abeilles, pour essayer justement d'avoir des molécules qui n'iraient pas impacter ces espèces de pollinisateurs.
Et de les protéger donc.
C'est ça.
D'accord. Vous y êtes depuis quoi ? Depuis 2019. Hein,
depuis mars 2019.
Oui. D'accord. Avec combien vous avez dit ? Une vingtaine quand même de surtout le LBGLC, une vingtaine d'enseignants-chercheurs, de maîtres de conférences, c'est ça ?
Oui, on est nombreux. Oui.
Et dans votre équipe précisément ?
Dans mon équipe, dans mon axe thématique de neurobiologie, on est trois titulaires.
Trois titulaires. Votre cursus universitaire maintenant, vous venez de la très belle ville d'Angers, que je connais, et qui est très belle, et qui est la première ville où il fait mieux vivre en France, et c'est normal. Vous commencez là-bas par une licence 1, c'est ça, ou vous entrez à la fac, quoi. Les études d'avant, vous étiez à Angers.
Alors, je suis arrivée à Angers pendant ma deuxième année de licence.
De licence, d'accord.
Donc, avant, j'étais à Nantes. Donc j'ai eu un parcours où j'ai fait donc la fac de médecine, prépa vétérinaire aussi avant d'arriver à l'université. Je me suis un peu cherchée, comme beaucoup d'étudiants, on finit par se trouver. Et donc après j'ai poursuivi mes études en licence master à Angers. J'ai pris goût à la recherche pendant des stages en tant qu'étudiante et j'ai poursuivi sur une thèse. Et c'est après cette thèse que j'ai migré donc sur Tours puis Orléans.
Des stages dans des labos ?
Oui, j'ai fait des stages en licence pour justement découvrir le monde de la recherche en laboratoire et j'y suis pas partie.
Et vous venez à Orléans et vous intégrez tout de suite ce laboratoire ?
Oui, je suis arrivée directement sur le poste de maître de conférence.
D'accord. Et vous êtes aussi enseignante, on va en parler. Ce laboratoire-là précisément, hein, je le dis souvent, mais c'est vrai, LBLGC, il suffit à mes auditeurs d'aller voir sur Internet ce qu'ils font. C'est un laboratoire d'excellence. Votre sens, vous qui y êtes, pourquoi c'est aussi ce laboratoire est aussi d'excellence, est appelé d'excellence ?
Alors, il faut voir les critères pour lui. Forcément, je suis à l'intérieur, donc je vais vous dire que c'est un très, très bon laboratoire. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir aussi le rayonnement de ce laboratoire en termes de recherche. Quand on juge un laboratoire de recherche, c'est de par ses publications scientifiques. Donc, c'est le nombre de publications, mais aussi, on parle de facteurs d'impact, dans quel type de journaux on va réussir à publier. Et aussi la capacité qu'on va avoir à être attractif et à être reconnu, que ce soit au niveau national ou international. Donc ça peut venir d'invitations pour participer à des conférences ou gérer des publications dans certains journaux, ou encore notre capacité à être attractif pour des chercheurs à l'international.
Et vous y allez souvent, vous, à l'étranger, pour présenter le labo, présenter vos recherches ?
Alors moi personnellement, depuis que je suis arrivée, malheureusement il y a le Covid qui est passé par là, donc ça a un peu remis en cause ces interventions internationales. Mais oui, dans l'équipe, hein, le directeur de mon équipe et du laboratoire, professeur Steve Tani, est un chercheur reconnu dans le domaine de la neurobiologie de l'insecte et il est régulièrement invité pour des conférences.
Vous parliez aussi de publications, vous en avez pas mal, publications scientifiques ou juste communication. C'est important pour votre métier forcément de publier ?
Oui, parce que c'est une reconnaissance de notre travail de recherche. Hein. Quand on publie dans des journaux à comité de lecture, ce sont d'autres chercheurs à l'international qui lisent nos travaux, qui les valident et qui attestent de l'importance aussi scientifique et de leur validité. Et c'est aussi un moyen de diffuser les connaissances qu'on apporte, parce que l'objectif, c'est aussi de faire avancer la science pour l'ensemble de la communauté scientifique. Donc cette notion de partage et de communication est primordiale.
Il y a certaines publications où vous êtes en premier auteur, d'autres en co-auteur. Quelle est l'importance d'être en premier auteur et pas ? C'est quoi la différence ?
Alors, l'ordre des auteurs dans une publication se fait en fonction aussi de l'implication de chacun des auteurs. Donc lorsque vous êtes en premier auteur sur un papier, ce sont généralement donc les personnes qui vont produire les résultats, qui vont faire les expériences à la paillasse. Donc typiquement, les articles où je suis premier auteur, c'est ceux où j'étais moi étudiante en thèse, où je produisais les données. Et les derniers auteurs, ce sont plus ceux qui vont gérer, chapeauter le projet de recherche, donc le directeur de thèse, directeur d'équipe. Donc ceux qui sont à la fin, c'est plus ceux qui gèrent le projet. Ceux qui sont au début, ceux qui font les manips à la paillasse, et cet entonnoir avec toutes les participations relatives des auteurs.
Et plusieurs de ces publications en anglais ?
Toutes. Toutes les publications scientifiques sont en anglais.
Oui, c'est vrai. Et c'est une importance pour moi. Pourquoi les publications en français ne comptent pas autant dans le domaine scientifique ?
Alors c'est surtout que dans notre domaine, en biologie, on a l'habitude, tous les journaux dans lesquels on publie sont pour... grande majorité en anglais, ce qui permet une plus grande diffusion aussi à l'international, toujours dans cette optique de diffuser au plus large nos connaissances.
Vous êtes maître de conférence, vous enseignez également donc à des étudiants, première, deuxième année de licence, master ?
Alors j'enseigne à différents niveaux, donc à l'UFR Sciences j'enseigne en licence à partir de la L3 principalement, et en master. Et j'enseigne également à l'école universitaire de kiné et à l'Institut de formation des psychomotriciens.
Et c'est une question que j'ai posée à d'autres de vos consoeurs également pour cette semaine du cerveau. C'est comment ça se passe la première fois que vous avez donné des cours, préparé un cours chez vous pour y aller. Qu'est-ce que vous vous dites ? L'étudiante que vous étiez revient quand même à la préparation des... Vous y pensez à ça ou pas ?
Alors on se met forcément, en essayant en tout cas de se mettre à la place des étudiants, dans le sens où on essaye d'être intéressant. On a tous des expériences d'enseignants qu'on a plus ou moins appréciées, donc on essaye de se calquer au maximum sur les enseignants qui nous ont marqués positivement, c'est sûr. Donc ça c'est par histoire personnelle. Et après sur la préparation des cours, j'ai commencé à enseigner déjà pendant ma thèse, que j'ai fait du monitorat. Donc ça fait maintenant longtemps que j'interviens et que j'enseigne. Donc c'est toujours un moment de partage et de plaisir. Et j'attends à chaque fois cette petite étincelle où je vois, ça y est, ils ont compris quelque chose. Ils prennent plaisir aussi à venir et à apprendre. Et c'est toujours une satisfaction personnelle quand des étudiants viennent nous voir pour nous dire que oui, ils sont contents, ils ont passé un bon moment, ils ont appris des choses et que ça leur servira pour l'avenir. C'est l'objectif.
Oui, bien sûr. Vous encadrez également des étudiants en laboratoire. Ça vous arrive ou pas ?
Oui, ça fait partie de nos objectifs, de former des étudiants aussi par la recherche et pas uniquement en théorie dans les cours magistraux.
Il y a une vraie différence entre avoir les étudiants et étudiantes en face dans une salle, dans un amphi, ou d'en avoir un ou deux en labo. C'est une vraie différence ou pas ? Vous enseignez de la même façon ?
Non, on s'adapte forcément au public, au contexte. On ne peut pas avoir la même approche pédagogique quand on a 120 étudiants dans un amphi ou quand on est avec une personne avec qui on peut interagir directement.
J'imagine que les liens sont plus proches que quand on a un ou deux étudiants ou étudiantes. Mais est-ce que cet étudiant que vous avez en labo, avec eux, elles, vous parlez de votre passé, ils vous posent des questions sur votre cursus, tout ça, sur vos publications qu'ils ont pu avoir vues ?
Alors ça dépend beaucoup des étudiants, de leur intérêt et de ce qu'ils viennent chercher aussi pendant leur stage. Il y a des étudiants qui sont plus, par exemple, que j'encadre en BTS, ils sont là vraiment pour se former sur la technique. Donc ce qui les intéresse, c'est de comprendre le détail de la technique, comment on gère, par exemple, les déchets au laboratoire pour que ça leur serve dans leur formation et pour leur futur travail de plus technicien. Et après, des étudiants qui sont en licence, master, qui se posent peut-être plus de questions sur est-ce qu'on va poursuivre en thèse ou pas, et qui, là, peuvent poser des questions sur, effectivement, notre expérience personnelle pour avoir notre point de vue sur la formation universitaire.
vous travaillez sur les insecticides. Beaucoup d'agriculteurs sont critiqués pour mettre dans leurs champs, pulvériser des insecticides qui sont réputés pour tuer beaucoup d'autres. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous vous intéressez à ça pour trouver des réponses, si vous posez la question?
Alors, on travaille aussi, on essaye d'être au plus près forcément des utilisateurs finaux et des problématiques sociétales liées à l'utilisation des insecticides. Quand on réfléchit par exemple à comment va monter un projet de recherche et quelle est la question qu'on va essayer d'adresser. Et donc, on est en contact, dans le cadre d'un projet régional actuel, où on veut tester des potentiels biopesticides avec des communautés d'horticulteurs, de semenciers qui nous sensibilisent à leurs problématiques. On a tel ravageur pour lequel on n'a pas de solution. Les produits qui étaient homologués efficaces vont être interdits, donc il faut qu'on trouve quelque chose. Donc on monte un projet de recherche, on va essayer de trouver des solutions aussi à but très appliqué. Et en parallèle, on a d'autres projets qui sont beaucoup plus fondamentaux, où on va essayer de comprendre en détail comment ça fonctionne pour apporter justement des connaissances scientifiques de base qui permettront plus tard de mieux appréhender ces notions de risque liées à l'utilisation des molécules. Et je pense que les agriculteurs et utilisateurs de ces molécules sont également aussi, les jeunes dans leur formation, sont beaucoup sensibilisés au mode d'action de ces molécules pour comprendre aussi le risque qu'eux-mêmes encourent à les utiliser. Donc l'objectif, c'est vraiment de mieux comprendre comment ça fonctionne pour protéger tout le monde.
Oui, bien sûr. Cette interview a lieu dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2023 en France, un certain événement national. À Orléans, vous allez faire quoi, vous, votre laboratoire ?
Alors, au titre du laboratoire, on n'a pas d'implication particulière sur la Semaine du Cerveau, parce que l'équipe, on est sur des équipes pluridisciplinaires au laboratoire. Et donc, c'est dans le cadre d'une équipe, d'un axe thématique particulier, qu'on travaille vraiment sur la neurobiologie de l'insecte. Mais on est regroupé, donc...